Salut, c'est Simon. Juste avant de passer à l'interview du jour, je voulais vous parler du programme de formation de la No Code Family. Alors ce programme, c'est pas une énième formation aux outils No Code, il y en a déjà plein sur internet et elles sont très complètes. Ici, il s'agit d'un programme complet qui va vous accompagner dans la construction de votre projet professionnel ou dans le lancement de votre side project, et même si vous ne savez pas coder. Alors comment trouver son idée, quelles sont les erreurs à éviter, comment trouver ses futurs clients, comment créer son prototype, quelles sont les questions à se poser pour créer son statut, toutes ces questions sont abordées dans ce programme en vidéo, accessible à votre rythme. Alors rendez-vous vite sur www.nocode.family pour découvrir le programme et vous lancer dès aujourd'hui. Le lien est aussi disponible en description de l'épisode. Bonne écoute. Salut à tous et bienvenue dans No Code Family, le podcast qui t'aide à te lancer sans savoir coder.
En fait, c'est là où nous on est bon, c'est qu'on maîtrise très très bien Zapier, on sait quels sont les avantages et quels sont les défauts de Zapier. Et les défauts de Zapier, on va les pallier avec du code aujourd'hui.
Chaque semaine, on rencontre celles et ceux qui développent leur business sans faire une ligne de code.
Mais on se rend vite compte que la force d'Airtable, en tout cas du no-code là-dessus, c'est qu'en fait, tu n'as pas, pas de superflu en termes de fonctionnalité, comparé à si tu passes sur un gros outil du style Salesforce. Là, tu vas vraiment avoir un outil qui fait uniquement ce que tu as besoin. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, l'outil va se construire en même temps que toi, tu construis ton business et que tu construis ton process.
Alors toi aussi, abonne-toi et rejoins la no-code family. Salut Thomas.
Bonjour Simon.
Alors dis-moi tout, qui es-tu ?
Écoute, je m'appelle Thomas Janot, je suis fondateur d'une agence qui s'appelle Essentiel. On est spécialisé dans le développement d'outils internes pour entreprises, notamment grâce au no-code et au low-code.
Alors justement, c'est quoi ta définition à toi du no-code et du low-code alors aussi ?
Alors, le no-code, c'est bon, je pense que beaucoup de personnes en ont mieux parlé que moi dans ce podcast, mais c'est simplement le principe pour moi, en tout cas, de répondre à ses propres besoins, de résoudre ses propres problèmes par soi-même. Et donc, pour ça, il y a des outils dits no-code qui permettent justement, grâce à des interfaces graphiques relativement intuitives, de tout simplement mettre en place soit des outils, soit des processus automatisés qui vont répondre à un besoin, soit les aider à construire leur propre produit, potentiellement un prototype ou un MVP d'un produit ou d'un service pour potentiellement lancer un business par-dessus plus tard.
Ok, très clair. Comment t'en es venu, toi, à t'intéresser à ces sujets-là ?
Il y a 3 ans maintenant, j'ai commencé à fonder une boîte de formation en présentiel où c'était une ancienne boîte que j'avais tenté de monter qui s'appelait Empathie et où je faisais de la formation sur de l'apprendre à apprendre. Donc ça n'a rien à voir avec la technologie, au contraire j'étais surtout focalisé sur la pédagogie et les méthodologies d'apprentissage. Et en fait très vite, comme j'étais tout seul, j'ai voulu optimiser au maximum ma manière de travailler et donc d'avoir des outils en interne qui allaient me permettre d'automatiser l'organisation des formations, la communication, la comptabilité, donc plein de choses comme ça. Et moi qui ai un passif en termes d'expérience de développeur web full stack, du coup j'ai commencé justement à prendre conscience d'outils comme Zapier et comme Airtable et à regarder un peu le potentiel qu'ils avaient. Et du coup je me suis un peu amusé avec eux. Et là où
comment t'es tombé sur ces outils-là ? Parce que en gros, c'est si t'étais développeur et que tu savais un peu manipuler du coup tout ce qui est API, etc. Finalement, t'es tombé dessus sur ces outils par hasard ou parce que t'avais un besoin spécifique que t'arrivais pas à couvrir jusqu'ici et finalement, pourquoi est-ce que tu t'y es intéressé sachant que tu pouvais réaliser la même chose avec les compétences dont tu disposais déjà finalement ?
Alors, comment je les ai découverts, c'est de manière totalement aléatoire, c'est-à-dire que pour les deux outils, que ce soit Airtable ou Zapier, c'est quelqu'un qui m'en a parlé. Ou à un moment de ma vie, je bossais sur un projet et on m'a dit « Tiens, on utilise tel outil, c'est vachement bien, ça permet de faire ça. » Et c'est là où j'ai découvert un peu les outils. J'ai pas eu la démarche d'aller les chercher moi-même, ça m'est tombé dessus comme ça, de par les projets sur lesquels je travaillais. Et après, pourquoi est-ce que j'ai décidé de partir dessus alors que, comme tu le dis, j'avais cette expérience tech ? C'est pour la simple et bonne raison que je voyais très vite la différence entre monter un outil avec du no-code et monter un outil avec du code où, en fait, juste la vitesse d'exécution pour la valeur que tu recherches est 10 fois, voire 100 fois plus rapide en construisant toi-même ta solution via du no-code plutôt que de devoir tout recoder from scratch. C'est pas forcément une très bonne solution parce que, en fait, tu vas te confronter à plein de problématiques qui sont des fausse problématique par rapport à la solution que toi tu recherches. Donc en général, ce que tu vas plus faire, c'est trouver le bon logiciel. Moi, j'étais plus intéressé par essayer de construire un petit peu mon propre logiciel, mais sans y perdre trop de temps, quoi. Donc de manière assez rapide, mais également de manière assez flexible.
D'accord. Donc c'est dans voilà, parce que je t'ai coupé un peu dans quand tu racontais un peu ton parcours, mais c'est finalement pour pouvoir aller plus loin dans cette offre de formation que tu es tombé un peu par hasard sur ces outils, quoi.
C'est ça. En fait, c'était simple. J'avais pas beaucoup de budget. Je voulais optimiser au maximum. Et du coup, comme j'avais pas forcément le budget pour recruter des personnes avec qui j'allais pouvoir déléguer des tâches opérationnelles, je me suis rendu compte que si je mettais les bons process en place, bah, il y avait beaucoup de choses que je faisais à la main que je pouvais automatiser et donc me faire gagner pas mal de temps. Et c'est là où je me suis penché dessus. Et du coup, si tu veux que je continue un petit peu l'histoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette boîte-là, en l'occurrence, elle n'a pas marché parce que j'ai eu un mal fou à vendre mon produit et je répondais pas forcément à un gros problème, ou du moins je l'adressais mal. Par contre, tout effectivement ce que j'avais mis en place pour répondre à mes propres problèmes, en l'occurrence, ça, c'est des choses que les clients que j'ai rencontrés à cette époque-là ont beaucoup plus valorisé. Et donc, en fait, j'ai rencontré des clients qui me disaient, bah, écoute Thomas, ta formation sur apprendre à apprendre, bon, ça a l'air pas mal, mais nous, on voit pas trop le retour sur investissement pour nous. Par contre, là, ce dont tu nous parles et tout ce que tu as mis en place pour te faire gagner du temps et automatiser des process, ça, c'est vachement intéressant. Ça nous parle. On a des problématiques équivalentes en interne. Viens, on prend un café, on en discute. Et c'est là où, en fait, moi, je me suis rendu compte que, bah ouais, il y avait un potentiel sur ce sujet-là et que c'était un sujet sur lequel j'étais relativement à l'aise. Et donc, c'était, en fait, bah, tous les débuts d'Essentiel. Et après, j'ai jonglé de client en client et on s'est de plus en plus professionnalisé. Maintenant, l'agence a pas mal grossi et donc, on continue le développement plein pot.
Ok, donc en fait, tu t'es rendu compte que la façon dont tu avais construit ton produit avait finalement plus de potentiel que le produit en lui-même, parce que les gens étaient vraiment très curieux sur les outils que tu avais utilisés, la méthode utilisée, et finalement tu as appliqué bah, ces compétences que tu avais acquises au passage lorsque tu construisais ton précédent produit, tu l'as appliqué pour construire donc Essentiel, qui est une agence hein, autour de l'automatisation et du no-code. Et donc, tu as appliqué finalement ces méthodes-là aujourd'hui pour accompagner tes clients, quoi. Ça, on est en quelle année finalement? Tu crées Essentiel en quelle année?
Mars 2019.
Mars 2019.
Ouais,
Ok,
voilà.
ça marche. Donc, ça va bientôt faire 2 ans. Euh,
Du coup, ouais,
et,
voilà.
et, et, et du coup, tu, depuis sur ces 2 années, vous avez travaillé avec combien de clients? Vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous dire, nous situer un peu ce qu'est Essentiel aujourd'hui finalement?
Ouais, bah aujourd'hui, on est 5 dans l'équipe. On a travaillé avec une trentaine de clients. Dont la moitié qui sont des clients récurrents. Voilà, grosso modo. Là, on est. Donc, ça, c'est le stade un peu de l'entreprise actuellement. Là, on est en train de s'ouvrir vers de nouveaux types de clients pour aller aborder de nouvelles types de problématiques, parce qu'on a bossé sur plein de sujets différents, principalement avec des PME. Et en fait, on se rend compte qu'on a fait beaucoup de choses qui ont beaucoup de valeur. Et aujourd'hui, un de nos défauts, c'est qu'on communique peu, on parle peu de ce qu'on fait et de ce qu'on est capable de faire. Et donc là, on est en train de bosser en interne sur un nouveau site web, une nouvelle strate de communication et à passer un peu plus dans de l'évangélisation de, bah, en termes, en fait, en termes d'outils internes, avec des outils no-code et de temps en temps avec un peu de code pour vraiment faire des choses performantes. Et donc là, on va tomber dans du low-code. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles et qui sont même amenées à rendre caduques certains logiciels existants actuels en fonction des usages que les entreprises ont.
Bon, déjà, c'est en un an, c'est une belle réussite de pouvoir, enfin, en 2 ans bientôt, de pouvoir constituer une équipe et d'avoir travaillé avec autant de marques, surtout si elles sont fidèles. Donc, déjà, bravo pour ça. Et puis, tu disais que, du coup, bah, sur ces bientôt 2 ans, vous avez fait beaucoup de choses grâce au no-code. Vous avez développé beaucoup d'outils internes pour ces clients et que. Aujourd'hui, ça permettait de remplacer des logiciels, tu vois, qui étaient en place jusqu'ici. Est-ce que tu peux justement nous expliquer un peu plus concrètement, nous donner des exemples de projets que vous avez pu réaliser pour vos clients, pour qu'on puisse se rendre compte de ce que le no-code chez Essentiel a pu leur apporter à ces clients-là?
Oui. Alors après, alors en no-code pur, on a fait très peu de choses, ou alors c'était vraiment des très petits, des petits projets plus pour accompagner des startups, où là on restait sur de l'automatisation, sur du Zapier, Airtable, je dirais pas basique parce qu'on rentre quand même dans ça reste quand même des grosses questions d'architecture logicielle, de performance et ainsi de suite. Qu'est-ce que je peux te donner en termes d'exemple parmi tout ce qu'on a fait? On a une boîte avec qui on a aidé à mettre en place tout un back-office pour un e-commerce. Et donc, en fait, de pouvoir traiter tous ces stocks et ces commandes via Airtable et Zapier.
Donc 100% en no-code, là, pour le coup. Vous avez pu accompagner une boîte sur tout le cœur de son métier, du coup, e-commerce, hein, gestion des stocks, etc. C'est quand même assez clé. Et tout ça sans coder, quoi, finalement.
Alors, bah, du coup... Non, il y a eu un peu de code.
D'accord.
En fait, c'est là où nous on est bon, c'est qu'on maîtrise très très bien Zapier. On sait quels sont les avantages et quels sont les défauts de Zapier. Et les défauts de Zapier, on va les pallier avec du code aujourd'hui. En fait, on sait qu'il y a beaucoup d'outils no code qui existent, par exemple Parabola, Integromat, qui permettent de faire des choses un peu plus puissante que Zapier en termes de process opérationnel. En fait, nous, notre position, c'est que comme on a une expérience tech en amont, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus rapide pour nous de mettre un petit peu de code dans Zapier pour répondre à quelque chose de très spécifique plutôt que de refaire exactement la même logique avec une interface graphique sur un autre outil. Mmh. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on creuse Integromat et Zapier, on se rend compte qu'en fait, Zapier autorise le fait de coder dans les automatisations. Alors que Integromat, pas du tout. Integromat a vraiment un positionnement full no code. Et si tu veux faire du code dans Integromat, il faut un peu que tu crées ta propre intégration et que tu fasses un call API. Bah, c'est un peu. On a essayé, c'est pas si simple que ça. Et
d'accord.
Donc, pour ce client, en l'occurrence, sur du e-commerce, on a tout un zap en fait, qui va traiter les commandes. Et en fonction des commandes passées, on va faire tout un tas de calculs et on va nettoyer et séparer la donnée qu'on va insérer dans différentes tables Airtable. Et typiquement, un usage très concret, par exemple, sur une commande, tu vas avoir plusieurs produits. Parfois même, tu as plusieurs quantités de produits. Et en fait, notre client en question, il aimerait que cette quantité de produits, quand il y a une commande qui soit passée, il y ait plusieurs lignes Airtable qui soient rentrées, mais dans la même table, et ça de manière dynamique, suivant en fait le contenu des commandes, donc de l'achat des clients.
Ouais,
et donc, typiquement, ça, c'est pas quelque chose que gère nativement Zapier, le fait d'insérer plusieurs lignes d'un seul coup dans Airtable. Et c'est là où soit on passe pour faire du sur-mesure comme ça, soit on fait un petit peu de code en utilisant l'API, en fait, tout simplement de Airtable, soit on a commencé à développer nos propres intégrations Zapier qui permettent, en fait, de faire exploser un peu l'usage d'Airtable. Et donc, typiquement pour Airtable, nous, on a nos propres API qui permettent de faire du bulk insert, donc d'insérer plusieurs données en même temps dans Airtable, de mettre à jour plusieurs données en même temps dans Airtable, de créer une vue automatiquement dans Airtable, chose qui aujourd'hui n'est même pas possible via leur API natif. Donc voilà, donc ça nous a permis d'explorer pas mal de choses et de aussi commencer à construire des briques de produits en interne par rapport à ça, toujours pour simplifier en fait les processus des clients et les aider à automatiser plus rapidement leur process.
Ok, donc si je résume là ce que tu nous as dit, c'est qu'en fait donc tu es rentré dans l'univers du no-code parce que tu voulais justement simplifier toi la création de ton propre produit. Finalement, ce produit-là, c'est pas très bien vendu, mais ce que tu avais appris au passage, tu as pu le répliquer pour d'autres clients. Mais tu as finalement assez vite atteint la limite de ces outils d'automatisation, notamment de Zapier ou de Airtable. Et donc, pour aller un peu plus loin, tu as développer, donc là pour le coup en codant un peu des couches supplémentaires qui permettent au quotidien malgré tout de pas avoir besoin de recoder tous les jours, mais simplement tu as développé ce qu'on pourrait appeler ça un peu des modules complémentaires que tu viens brancher sur Zapier et sur Airtable qui te permettent au quotidien de pas recoder et d'utiliser toute la puissance de ces outils au quotidien. C'est toujours un peu du no-code, mais toi ce module complémentaire que tu as développé, bah, il a fallu le coder pour le coup pour y arriver quoi.
Ah ouais, et là faire du vrai bon code très classique pour le coup.
Mais c'est intéressant parce qu'en gros tu as atteint les limites des outils no-code, donc tu as codé pour repousser un peu ces limites, mais qui te permettent au quotidien de rester dans une approche quand même très no-code et de pas avoir besoin de redévelopper finalement des produits, des services pour tes clients à chaque fois. T'as simplement un peu repoussé la limite des outils no-code quoi.
C'est ça.
Ok. C'est ça. Écoute, c'est très clair. Et aujourd'hui, finalement, c'est si tu peux, voilà, t'as ces exemples un peu de site e-commerce où on comprend bien la complexité des commandes en fait finalement qu'on peut avoir, comme tu le disais, différents produits, différentes quantités de produits. Tu peux avoir, j'imagine aussi des options sur la livraison, sur les trucs comme ça. Ouais, voilà. Donc ça, c'est un bon exemple et montrer qu'on peut réussir sans coder ou en tout cas en développant des modules supplémentaires au-dessus des outils no-code, mais qui te permettent quand même d'arriver à ce résultat final sans coder ou en codant très peu. Est-ce que tu as d'autres exemples que tu pourrais nous citer pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire grâce à cette approche et à ces outils?
Oui, complètement. Là, très récemment, avec un client, on a bossé sur tout ce qui est vente, en fait. Comment est-ce que tu automatises ta prospection? Comment est-ce que tu gères un peu ton CRM? Et c'est toujours un sujet extrêmement intéressant parce que des outils, des logiciels SaaS pour automatiser ta vente et ton CRM, t'en as vraiment énormément, quoi. T'as beaucoup le marché est vraiment bien, bien chargé. Ce qu'on fait, c'est qu'on se positionne quand même pour avoir une spécialité sur Airtable Zapier pour sur la base, en tout cas sur des sujets comme ça. Et donc avec ce type de client, on va recréer en fait un CRM tout simplement pour qu'il puisse gérer les clients qu'il avait actuellement, soit qu'il avait soit dans un Excel, soit dans un autre outil CRM directement sur Airtable. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce client-là, il avait déjà une idée précise de ce qu'il voulait en termes de process de vente. C'est-à-dire qu'il a déjà expérimenté des choses à la main et il voulait industrialiser un peu son process et il avait déjà eu l'occasion de tester plusieurs outils et il était plus ou moins satisfait et il voulait vraiment quelque chose de sur mesure et d'assez précis. Et donc là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, on a tout reconstruit avec lui un CRM de vente qui collait avec son business, en fait, avec ce qu'il vendait et comment est-ce qu'il le vendait. Et on a pu, en fonction de ses besoins, rajouter des briques d'automatisation, donc là, en l'occurrence via Zapier, pour automatiser différentes choses. Et donc, après, ça, on retombe sur des problèmes, sur des sujets très, très classiques, mais qui sont l'automatisation de la prospection, l'automatisation de l'enrichissement des leads, l'automatisation des campagnes de mail, l'automatisation des réactions en fonction des réponses des personnes sur ces campagnes de mail. Et on a fait de Airtable tout son dashboard et son outil central de travail sur lequel il pouvait voir tout ce qui se faisait en termes de vente et de com, de déclencher des processus de vente. Et du coup, faire des actions un peu plus poussées pour certains clients s'il veut pousser plus loin la vente. Et donc c'est assez classique, mais on se rend vite compte que la force d'Airtable, en tout cas du no-code là-dessus, c'est qu'en fait tu n'as pas de superflu en termes de fonctionnalité, comparé à si tu passes sur un gros outil du style Salesforce. Là tu vas vraiment avoir un outil qui fait uniquement ce que tu as besoin. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, l'outil va se construire en même temps que toi, tu construis ton business et que tu construis ton process.
Ouais, tu peux le faire évoluer plus facilement. Quoi,
exactement. Et donc, tu n'as aucune limite de flexibilité. Et en fait, du coup, nos clients s'approprient beaucoup plus vite ces outils-là, du coup, parce qu'ils ont participé eux-mêmes à la réflexion de pourquoi il y a telle fonctionnalité, comment va s'utiliser telle fonctionnalité. Et donc forcément, l'usage au quotidien est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace parce qu'ils ont fait partie intégrante de la construction de l'outil au lieu de devoir, entre guillemets, bon, le terme est un peu fort, mais subir les fonctionnalités d'un outil dans l'usage. Alors, il y a des fois où le cas est ultra intéressant parce que des gros outils CRM sont justement configurés pour répondre aux bonnes manières de vendre. Donc, tu as déjà plein de choses qui sont préfaites qui, quand tu maîtrises le sujet, te font gagner pas mal de temps. Et pour des personnes qui commencent, c'est peut-être un peu trop et ça peut plus te perturber qu'autre chose. Donc, ça permet aussi, voilà, d'aider en fait nos clients à mûrir leur process et leur manière de travailler et d'avoir des outils qui suivent cette réflexion-là. Et
Ouais,
après,
je comprends.
la plupart des fonctionnalités aujourd'hui qu'on trouve dans les gros logiciels SaaS, bah, en fait, il y a quand même une grosse partie où quand tu maîtrises bien Zapier et Airtable, ouais, tu es capable de recréer 80% de la valeur des fonctionnalités.
Ouais, c'est un exemple intéressant parce que finalement, toutes les boîtes, à un moment donné, ont besoin de vendre. Et
Voilà.
donc, on se rend bien compte que ces process-là de prospection, de suivi des clients, de conclusion des ventes, etc., finalement, c'est des choses qui sont partagées par toutes les boîtes. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que, effectivement, comme tu le disais, il y a plein d'outils disponibles pour faire ça sur le marché qui sont souvent très complets, très lourds à mettre en place. Là, quand on est notamment une petite boîte, une PME, une start-up, on ne va pas utiliser toutes les fonctionnalités de ces outils qui coûtent cher. Et donc là, ce que tu
Exactement.
nous dis, c'est que en ne codant pas, ou en tout cas en codant très très peu, on peut réussir à développer très rapidement des outils adaptés précisément à nos besoins sur des process comme ça de vente, en fait, finalement, et donc être plus efficace, avoir un outil qui colle à ses besoins d'aujourd'hui, mais en même temps qu'on est capable de faire évoluer dans le temps, quoi.
Exactement. Exactement. Et là, pour toute cette partie effectivement CRM vente, ce qu'on a mis en place avec ce client, il n'y a pas eu de code pour le coup.
Ouais, zéro code.
On était pour le coup, on était sur du pur Zapier. Là, Zapier est suffisamment développé pour faire du no code complet.
Je pense que c'est un outil qui est encore sous-estimé, Zapier. Alors, dans ce podcast, on a parlé de beaucoup d'outils, hein, de Bubble qui permet de faire énormément de choses, de Webflow, d'Adalo, etc., donc, qui permettent de faire beaucoup de choses. Mais moi, Zapier, au final, je pense que c'est celui vraiment que j'utilise presque tous les jours. Enfin, en tout cas, j'en bénéficie tous les jours, même si je ne m'y connecte pas tous les jours. Mais parce que justement, il permet d'automatiser vraiment beaucoup de choses. Et ça, l'automatisation, c'est quelque chose finalement dont tout le monde a envie. Tout le monde passe du temps sur les tâches très répétitives et pourrait gagner du temps, soit pour faire autre chose, soit pour ne pas travailler pendant ce temps-là, tu vois. Et c'est vrai
Exactement.
que tout le monde devrait un peu se pencher sur cet outil, je pense, parce que c'est cet outil ou des équivalents. On a cité par exemple Integromat tout à l'heure aussi, mais en gros, qui permettent vraiment d'aller sans avoir besoin d'être développeur, automatiser beaucoup de tâches, beaucoup de processus, et donc de pouvoir réaliser du temps enfin gagner du temps, pardon, et pas avoir besoin de faire à la main tous ces trucs-là tous les jours. Donc c'est vraiment un
Complètement.
outil que je trouve fascinant. On comprend
Complètement.
bien que c'est ton outil, j'allais dire préféré, en tout cas de prédilection un peu dans ton quotidien. Il y a Airtable aussi que tu utilises beaucoup. Au-delà de ces deux outils-là, c'est quoi tes autres outils no-code ou low-code préférés, ceux vraiment dont tu aurais du mal à te passer, soit dans ton job chez Essentiel, mais aussi potentiellement sur des projets plus perso, etc. C'est quoi les autres outils que tu nous recommanderais d'aller voir?
Alors, bon, il y en a dont tu as déjà parlé, bah, il y a Webflow, hein, très, très basiquement. On est un grand fan de Webflow à Essentiel, parce que c'est quand même l'un des seuls outils de création de site web qui permet de faire du pixel perfect tout en ayant la possibilité d'automatiser complètement le contenu. Donc, c'est en termes d'articles, en termes de landing page, il y a plein de choses qui sont possibles. C'est un outil qui est très complet. Par contre, il y a un autre outil que nous, on a découvert il y a 6-8 mois, dont on entend encore peu parler et qui, pour nous, va changer pas mal de choses et sur lequel on est très, très passionné, c'est Retool. Alors, je ne sais pas si c'est un outil que tu connais ou si on a déjà parlé de cet outil dans ce podcast.
Non, ça me dit rien du tout.
Eh bah, ben, Retool, c'est un outil qui fait un peu partie. C'est un outil qui est très discret dans la mouvance no-code. Il fait partie un peu de cette dynamique no-code et en fait, il est bah, beaucoup mis en avant dans le no-code. Pourquoi? Parce que c'est plus un outil pour ingénieurs. Bon, le pitch, c'est Retool, c'est un outil qui permet en fait de créer des outils internes, donc des interfaces internes que tu vas pouvoir connecter à n'importe quelle API ou n'importe quelle source de données, y compris un Google Sheet, par exemple. Et donc,
OK.
en fait, la force de Ritool, c'est que tu vas. Donc, Ritool est vraiment spécialisé dans. C'est un outil pour construire des outils internes. Et donc, bah, nous, ça correspond parfaitement à notre métier. Et donc, en fait, Ritool va te permettre de créer vraiment une app. Une app interne avec un tableau, avec des boutons, avec des formulaires, avec des graphes, à peu près tout ce que tu veux. Et à côté, il ne va stocker aucune donnée. Ça va juste être un front qui va pouvoir se connecter à des vraies bases de données, du style PostgreSQL, MySQL, GraphQL, tout ça, ou alors à des bases de données un peu plus no-code, et donc là, en l'occurrence, Spreadsheet ou bah, tout simplement Airtable. Et donc, en fait, typiquement, Ritool, nous, c'est un outil qu'on adore parce qu'il nous permet de craquer beaucoup de problèmes qu'on rencontre sur Airtable. C'est-à-dire que sur Airtable, pour stocker ta base de données et faire une première interface utilisateur, c'est très bien. Maintenant, dans Airtable, tu peux même mettre des boutons dans les lignes pour déclencher des process, des automatisations. Donc, on commence vraiment à faire de l'interface utilisateur assez intéressante dans Airtable. Mais tu es toujours verrouillé à travailler sur une grille, à travailler sur un Kanban. Ils ont toutes leurs fonctionnalités de dashboard. Donc, maintenant, avec le dashboard d'Airtable, tu peux vraiment créer une interface riche. Qui soit vraiment complète avec plus d'infos, mais on reste dans l'écosystème qui finalement est assez fermé d'Airtable, même si tu peux créer maintenant tes propres apps. Donc je sais pas si tu en as entendu, ah si, bon, tu as dû en entendre parler, mais Airtable ils ont levé 200 millions il y a 2 semaines et maintenant ils se positionnent vraiment comme une plateforme low code. Donc on peut coder ses propres apps en fait dans Airtable maintenant avec du React tout simplement, voire même faire ses propres scripts. Donc ça c'est vraiment quelque chose de fabuleux parce que ça ouvre encore plus le champ des possibilités. Après, bon, c'est le business model d'Airtable et l'idée c'est qu'il y ait toute une équipe qui soit sur Airtable, qui utilise que Airtable et qui soit verrouillée à ça. Et en fait, la force de Ritool, c'est que du coup, on va pouvoir sauter ça. Ritool, on va pouvoir créer un outil et en fait, l'outil que tu vas créer, tu vas pouvoir le partager à d'autres personnes sans que elles aient besoin d'avoir un compte Ritool et
Ouais,
sans qu'elles
ça
payent
permet
pour
vraiment
Ritool.
de faire une interface graphique permettant d'aller chercher dans les données, les lire, les représenter aussi potentiellement graphiquement avec des reportings, un peu ce genre de choses, mais sans avoir besoin en tant qu'utilisateur de ce dashboard d'accéder aux données brutes, d'avoir un droit en lecture, en écriture sur
Exactement,
ces données. Donc on peut
exactement.
construire voilà vraiment des tableaux de bord, des outils de consultation, même d'édition potentiellement de ces données, mais sans avoir accès aux données directement. Écoute, je connaissais pas cet outil et
T'as tout
c'est
compris.
effectivement très 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 intéressant. Je vais regarder ça de plus près. Je vois déjà des usages aussi dans ma boîte,
Parfait.
donc très bien. Merci pour l'info. Donc ça, c'est un outil que tu nous recommandes. Est-ce que tu as aussi à nous recommander de la même façon, peut-être des blogs, des chaînes YouTube, des podcasts qu'on pourrait aller consulter si on veut continuer à s'intéresser au sujet, peut-être découvrir des nouveaux outils, par exemple, ou découvrir des nouvelles ressources. Qu'est-ce que tu nous recommandes d'aller lire ou écouter ou regarder?
Alors c'est une bonne question. Moi aujourd'hui ma veille je la fais sur tous les fondateurs de boîtes d'outils no code, donc qui sont surtout basés à la Silicon Valley. Je fais ça sur Twitter. Et j'en apprends énormément. Bah, c'est aussi comme ça que je suis tombé sur des outils comme Ritool, dont on a pour le moment pas encore du tout entendu en France, alors que ça commence à faire son trou aux États-Unis. En termes de ressources, il y a MakerPad, qui est quand même une référence dans le
Ouais.
monde du no-code, qui est assez connu, mais c'est, je pense que c'est le plus complet. Après, pour les personnes qui s'intéressent au no-code, notamment en France, et qui veulent faire partie un peu de la mouvance no-code, bah, il y a très simplement le Slack No-Code France qui a été lancé récemment, dont Jérémy a dû parler d'ailleurs
Ouais.
sur le dernier podcast. Voilà, où il y a beaucoup de personnes qui se positionnent là-dessus. Donc ça aussi, c'est une grosse ressource. Nous, on va plus se focaliser sur le monde du low-code qui est, je trouve, en fait, une autre dimension que le no-code. Parce que c'est intéressant, dans le no-code, on voit vraiment la philosophie de vraiment zéro code et d'essayer de tout faire sans code. Et nous, on va être plus friands de, En fait, il y a des choses très intéressantes avec le no-code, il y a des choses très intéressantes avec le code. Comment est-ce qu'on peut utiliser le meilleur des deux mondes pour faire des choses performantes et intéressantes. Donc ouais, MakerPad, no-code France, en termes de ressources. Après, en termes de blog, en vrai, s'il y a des personnes qui sont intéressées et qui veulent creuser sur ces outils, les blogs des outils sont en général assez bien fournis, surtout que là, Zapier, depuis cet été, ils ont changé leur mission. Et maintenant, l'objectif de Zapier, c'est de démocratiser l'automatisation et la rendre accessible pour tous. Et donc, en fait, ils ont vraiment fait un virage sur l'aspect pédagogique de comment est-ce que tu utilises Zapier, comment est-ce que tu peux automatiser des process, comment est-ce que tu peux gagner ton temps. Et donc, tu as déjà beaucoup, beaucoup de ressources qui existent juste sur le blog de Zapier.
Intéressant. Au-delà de ces ressources-là, est-ce qu'il y a aussi des gens que tu recommandes de suivre dans cette communauté, vraiment des, je sais pas, des comptes LinkedIn, des comptes Twitter, des personnes vraiment qui pour toi sont assez incontournables et qu'il faut aller suivre de près si on s'intéresse à ce sujet?
Des personnes qui sont incontournables en France, je dirais le contournement.
Oui, bien sûr.
Parce qu'ils participent beaucoup à l'évangélisation de cette mouvance et c'est eux en partie qui sont à l'origine de tout le Slack No Code France. Donc oui, allez voir Erwan, allez voir Alexis. Clairement, ils sont assez actifs en plus sur LinkedIn. Ils partagent pas mal de choses. Donc eux, ils ont du bon contenu. En France, après aux États-Unis, il y a toujours des comptes qui sont aussi très intéressants. Il y a c'est pas vraiment du coach français, à des personnes comme Peter Levels, mais là on est plus dans des dynamiques makers, mais qui ont parfois des points de vue intéressants sur pour que ce soit des personnes en fait qu'on construit des business à la main en entier en codant from scratch, qui en fait ont un point de vue de se dire du coup nous on l'a fait en code, ok je tends un coup d'œil en quoi le no code est plus intéressant, et du coup t'as des réflexions justement qui sont intéressantes qui moi en tout cas ont alimenté ma réflexion sur le low code versus le no code.
Et c'est un bon exemple Pieter, parce que en fait il a, même si effectivement il a codé ses différents business en ligne, notamment Nomadlist ou Remote OK. Exactement. En réalité, il a aussi une approche assez pragmatique de ça. Donc, même si on n'est pas développeur, ça reste intéressant de le suivre sur ces sujets parce que très souvent, il vient critiquer un peu certaines guéguerres qu'on peut rencontrer dans le monde du développement sur le choix des technos, sur la suroptimisation de plein de processus, sur l'utilisation de la dernière technologie à la mode et tout. Pour lui, il a fait ça en utilisant des outils relativement basiques de développeur, mais que lui connaissait bien, et entre guillemets, il va pas se jeter sur le dernier truc à la mode parce que tout le monde en parle et parce que tout le monde dit que c'est mieux. Donc, il y a aussi, je trouve, ce côté effectivement très pragmatique de se dire, je sais pas coder, c'est pas grave, je vais utiliser des outils no code pour le faire. Je sais un peu coder, je vais faire peut-être un peu du low code. Je sais coder, mais restons pragmatiques et nous ne jetons pas dans des nouvelles techno tous les deux jours et utilisons ce qu'on sait faire et qui marche bien et qui permet d'atteindre ses objectifs. Donc effectivement, même s'il est développeur, il est en termes de philosophie, il peut être assez proche de choses qui sont défendues dans la communauté no code, quoi. Et pour finir, toi, du coup, si on veut te suivre et si on veut suivre ce que tu fais dans le no code, où est-ce qu'on peut aller?
Le plus simple aujourd'hui, ça va rester LinkedIn, clairement. Twitter, je suis pas du tout dessus. Donc, LinkedIn.
Eh ben super. Eh ben écoute, on va aller te suivre sur LinkedIn et on va continuer à suivre de près ce que vous faites chez Essentiel. Un très très grand merci Thomas d'être venu dans la No Code Family. Et puis je te dis à très bientôt.
Merci à toi pour l'invitation et à très vite.
Merci d'avoir écouté cet épisode de la No Code Family. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'imagine que le sujet vous a intéressé. Alors n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas non plus à nous laisser 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la No Code Family. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut !